Challenger, you are free to take off now.
The voice came on the loudspeaker and said the vehicle has exploded.
Alors, on fait des propositions de séries ou de films. C'est une série documentaire. Vous avez compris, c'est le dernier vol de la navette Challenger.
Oui, quelle tragédie de la navette spatiale Challenger qui a explosé le 28 janvier 86 après 73 secondes seulement après le décollage. Et on se souvient tous à quel où on était à ce moment-là. Moi, j'avais 7 ans. J'étais sur l'heure du dîner. Tout le monde regardait, en fait, ça. Et ça nous a marqué, tout le monde, notamment pour le décès de ces 6 astronautes et aussi de la professeure Krista McAuliffe, qui était la première civile à aller dans l'espace, a marqué les esprits.
Je me souviens, sais-tu pourquoi? Moi, j'étais à la salle des nouvelles de Radio Mutuelle. Oui. C'était devenu un peu routinier, les départs de navettes ou de fusées comme ça. Et je me souviens, j'étais sorti du bureau puis je regardais la télé. Tu sais, comme on regarde un peu par habitude.
Un avion décollé.
Puis tu sais, au début, il y avait beaucoup d'excitation, mais c'est comme il y avait une série de vols, c'était, comme je te dis, un peu routinier. Et à un moment donné, paf! Ça explose. Et là, on s'est tous regardés en disant « qu'est-ce qui arrive là? »
Et t'as raison, parce qu'à la fin des années 70-80, la NASA avait beaucoup de vols. Il y avait même un plan pour en faire le plus possible. On rêvait même de faire des vols commerciaux dans l'espace. C'est pourquoi on voulait justement amener davantage de civils. On avait ouvert la porte aux femmes, aux minorités. Donc, tu sais, on avait le vent dans les voiles jusqu'au moment où est arrivé le drame de Challenger. Et là, ça a montré et ça a exposé les failles de la NASA et pas à peu près comment on a caché des problèmes majeurs pour aller de l'avant avec le vol, même s'il y avait des ingénieurs qui s'opposaient au lancement, dû notamment au fameux joint des propulseurs qu'on a beaucoup parlé par la suite. Mais au-delà de l'enquête, qui est super bien détaillée dans le documentaire, moi, ce que j'ai aimé et qu'on a peut-être moins vu aussi avec les années, c'est le cheminement de chacun des membres de Challenger, c'est-à-dire leur préparation, la passion qu'ils avaient, le rêve inaccessible pour certains qui se réalisent, des images d'archives aussi, des entrevues avec la famille, les enfants. Et je vais vous faire entendre la conjointe du pilote de Challenger, Frances Cobie. Elle s'appelle June. Et encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile et le pardon n'est pas encore là.
You go through anger, you go through resolution, you go through they're in a better place. You can think away anything, but it was hard to forgive.
Au début, tu passes par la colère, la résolution, tu te dis, ben écoute, ils sont peut-être mieux dans le ciel finalement, mais ça a été extrêmement dur de pardonner. Puis encore aujourd'hui, on sent que les familles, c'est très, très, très difficile parce qu'il faut se rappeler que la famille était au moment du décollage et ont vu tout ça en direct. Ça, c'est un moment qui arrache le cœur. Et le producteur, c'est J.J. Abrams qui est derrière justement les 4 épisodes du dernier vol de la navette Challenger sur Netflix.
Maintenant, un film de Gaulle avec Lambert Wilson.
Oui, et le film, c'est un mini cours d'histoire sur une partie très importante. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition.
Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons.
En langage militaire, ça s'appelle une désertion.
Je ne vous permets pas, de Gaulle !
Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs.
Alors, vous l'aurez compris, c'est un film sur le général de Gaulle, mais une partie, en fait, de sa vie. On est en mai 1940, les Allemands s'approchent de plus en plus de Paris, vont piller les villes, brûlent les maisons. Et là, à ce moment, le gouvernement français est complètement pris au dépourvu, commence à penser même à faire un traité avec les Allemands. Et le maréchal Pétain, lui, est même prêt à concéder la victoire, ce qui ne fait pas l'affaire de Charles de Gaulle, qui vient tout juste de recevoir son grade de général. Il dit toujours qu'il veut rester optimiste, et c'est comme ça qu'on l'a découvert, le général de Gaulle. Il veut continuer la bataille et va défier les ordres pour se rendre négocier avec Churchill pour recevoir de l'aide. Et c'est de là, justement, son fameux discours à la BBC qui demande au peuple français de résister et de rejoindre les forces françaises libres. Tout l'aspect historique est évidemment passionnant, mais moi, ce que j'ai aimé aussi, encore une fois, c'est le côté plus émotif. C'est-à-dire, on a moins vu la famille du général de Gaulle qui a, pendant que lui tentait justement de sauver la France, se sauvait. Sa fille Anne, trisomique aussi, il y a une fameuse photo dont on a beaucoup vu aussi et comment il a aidé par la suite la cause des enfants trisomiques pour qu'ils puissent grandir dans un environnement sain. Alors, le général de Gaulle manque peut-être un petit peu par moment, je vous dirais, d'émotion dans ce film-là. C'est très, très historique dans les faits, mais je pense que si vous aimez l'histoire, vous allez adorer ce film avec Lambert Wilson que j'ai trouvé très, très bon. Puis ça montre que c'est plus que « Vive le Québec libre », évidemment, le général de Gaulle. Alors, c'est en salle dès aujourd'hui.
Maintenant, un documentaire sur la Manic GT.
Ouais, moi, j'avoue, je connaissais pas la Manic GT. J'avais jamais vu cette voiture-là. Peut-être que j'étais trop jeune aussi. C'est l'histoire de la seule voiture québécoise à être produite en série. Pas très longtemps, là, quand même. Puis, il n'y en a pas eu beaucoup. 150 de 1969 à 1971. C'était l'époque des grands changements au Québec, évidemment, en pleine Révolution tranquille. Et c'était le rêve d'un homme, Jacques Abou.
Pour moi, au Québec, on est le milieu entre deux mondes. Hein, un monde américain et un monde européen. Et cette espèce de jonction qu'on représente, c'est pas une pauvreté, c'est pas une raison de complexe, au contraire, c'est une richesse. Et c'est une richesse d'autant plus en ce moment que les Européens ont une tendance à s'américaniser, les Américains ont une tendance à s'européaniser. Alors, on a voulu créer quelque chose, un style qui soit typiquement de chez nous.
Et comme je l'ai dit, ça n'a pas duré longtemps, mais il reste quand même qu'on explique tout le cheminement de cet homme et aussi de ses amis, de sa femme qui, dans la jeune vingtaine, avait ce rêve de créer une voiture, avec acheter des pièces de chez Renault, louer un garage, ramasser le plus de sous qu'il était capable d'avoir. Et finalement, il y a eu des problèmes, notamment financiers, des problèmes avec Renault aussi. Donc, on a dû arrêter la Manique GT. Mais il y a encore des gens qui collectionnent les voitures, dont le député conservateur Gérald Etel, qui est un maniaque de GT.
C'est vrai?
Oui, vraiment, effectivement.
C'est pas ça.
La Manique GT, effectivement. Donc, il y en a trois. Donc, on peut le voir, d'ailleurs, travailler sur ses bolides. Alors, c'est réalisé par le journaliste Julien Madou. C'est sur le Club Illico, la Manique GT.
Très bien. 6h33. La 132, monsieur.